DW. Droits et libertés.
En 2003, les milices arabes des cavaliers Janjaweed écumaient la région du Darfour dans l'ouest du Soudan. Elles étaient soutenues alors par le président Omar el-Béchir. En 2005, le village d'Amada a été pris d'assaut, le bétail abattu, les fermes brûlées. Les 3000 habitants ont dû trouver refuge dans des camps de déplacés. Les violences ont repris au début de cette année. Nous irons donc voir du côté du village d'Amada ce qu'en disent les habitants. Et puis, nous nous entretiendrons aussi avec André-Marie Kito Massimango. Il est coordinateur national de la coalition pour la CPI en RDC. Sandrine Blanchard au micro, bonjour à tous. Au début des années 2000, des centaines de fermiers ont dû fuir leur village du Darfour à cause des combats dans le sud de la région. Abbas Abdullah fait partie de ceux qui sont revenus, croyant pouvoir enfin mener une vie tranquille. Mais au début de cette année, de nouvelles violences ont éclaté dans son village d'Amada, à plusieurs centaines de kilomètres de Khartoum, la capitale. Les agriculteurs du village, membres de la communauté Berjide, ont été attaqués par des nomades arabes, arrivés à dos de chevaux et de chameaux. Abbas Abdullah a été contraint de rester debout du lever au coucher du soleil en pleine chaleur. Abbas Abdullah a 80 ans. Il a dû regarder les montures de ses assaillants brouter ses champs, ravageant toutes ses récoltes à venir. Sahad Edine Hassan Idriss est lecteur au Centre de recherche sur la paix à l'université de Niala.
Les conflits tribaux au Darfour remontent à loin, mais on constate qu'ils sont en hausse. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y en a tellement d'ailleurs qu'il est impossible d'en déterminer une seule.
Le vieil Abbas Abdullah est le premier à être rentré au village. C'était en 2016 quand les casques bleus de la MINUAD, la mission conjointe de l'Union africaine et des Nations unies, ont mis en place des patrouilles régulières dans la région du Darfour. Le vieil homme s'est remis à cultiver des oranges, des mangues, des légumes, en dépit des violences périodiques entre nomades et agriculteurs, notamment pour avoir accès à l'eau dans cette zone désertique. Mais ces derniers mois, les affrontements intercommunautaires ont fait près de 250 morts dans l'ouest et le sud du Darfour. Le mandat de la MINUAD, lui, s'est terminé au 31 décembre dernier. Environ 700 villageois sont rentrés à Hamada ces dernières années, mais ils sont régulièrement témoins de violences, comme Mohamed Adam, un autre habitant du village.
Ils ont attaqué le village. Des hommes armés sont arrivés à dos de chameaux et ont détruit les terres cultivées. Personne n'était là pour les arrêter. Quand un fermier tentait de s'interposer, il l'attaquait, le battait avec un fouet ou avec une arme.
Khadija Berit habite elle aussi à Hamada, mais souvent elle doit sortir chercher du bois de chauffe et désormais elle est souvent arrêtée par des milices arabes sur son chemin.
Il n'y a que les Arabes qui ont du bétail et des fois ils viennent ici. Ils viennent chercher des hommes pour les battre et puis les laissent derrière eux. Par contre, ils emmènent les femmes.
Les Darfouris avaient espéré avoir tourné la page de ces violences interethniques avec le départ d'Omar el-Béchir, c'était en avril 2019. Le président déchu est recherché par la CPI depuis 2008 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour son rôle dans le conflit du Darfour. Près de 300 000 personnes sont mortes dans cette guerre qui a fait aussi 2,5 millions de déplacés selon l'ONU. Le Congolais André-Marie Kito Massimango coordonne au niveau régional la COJA, Coalition des ONG pour la démocratie et la justice en Afrique. Il souligne que le cas d'El-Béchir était une première.
Qu'on organise des poursuites, qu'on ait lancé un mandat contre un président qui est en fonction. Et tout cela, c'était pour démontrer que les principes de la Cour en matière de crimes internationaux, les immunités, ne sont pas démises.
Le gouvernement de transition soudanais a accepté l'année dernière qu'Omar el-Béchir comparaisse devant la CPI. Un accord de paix a été signé en octobre 2020 avec le principal groupe rebelle du pays. Au vu des récentes violences, le gouvernement a déployé l'armée et la police dans la région, Mais à Hamada, les habitants ne voient pas tellement de progrès, comme en témoigne le chef des Bergides, Abdullah Mohamed Mustafa.
D'abord, les populations déplacées ne reviennent pas ici, au village d'Hamada, parce que les gens ont peur des milices et des bandits qui donnent des coups. Ensuite, ils ont peur au village à cause du manque de moyens de la police, qui n'a même pas de voiture. Même les soldats ne sont pas nombreux.
Une délégation du bureau de la procureure de la CPI s'est rendue sur place récemment. Elle a appelé le gouvernement de transition à rendre justice aux victimes du Darfour. Les autorités soudanaises ont promis de transférer Omar el-Béchir à La Haye après son procès au Soudan pour corruption et blanchiment d'argent. Vous écoutez Droits et Libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. Maintenant, nous allons revenir un peu plus en détail sur le travail de la Cour pénale internationale et plus exactement sur celui de Fatou Bensouda, l'encore procureur général de la CPI pour quelques mois, puisque son mandat arrive à échéance au mois de juin. L'occasion pour nous de nous entretenir avec maître André Kito Massimango, que vous avez déjà entendu brièvement tout à l'heure. Ce militant pour la promotion des droits humains et la paix en RDC est entre autres fonctions le coordinateur national de la Coalition nationale pour la CPI en RDC. Il souligne que le nombre de cas de personnes poursuivies par la CPI a beaucoup augmenté de par le monde. C'est selon lui l'une des principales avancées du mandat de Fatou Bensouda. Et qu'en est-il de ces échecs? Eh bien, maître André-Marie Kito Massimango préfère lui parler de défis.
Il y a eu certaines affaires où le bureau du procureur n'a pas été assez profond dans le domaine des enquêtes. Et c'est pourquoi vous avez vu, il y a des affaires où le juge était obligé d'acquitter certaines personnes qui étaient poursuivies. Et là, j'ai fait allusion à une affaire de la République démocratique du Congo. Mais Calix Mdakmour a été au finish acquitté, alors que pour les juges avaient estimé qu'il n'y avait pas assez de preuves pour démontrer de sa responsabilité. Eh bien, pour nous qui travaillons avec les victimes au niveau de la République démocratique du Congo, nous étions assez scandalisés. Et on se disait, mais comment dans un pays où les victimes se comptent en milliers, si pas les dire en millions, qu'on puisse manquer de preuves?
Fatou Bensouda connaît l'un de ses échecs les plus cuisants lors du procès de Jean-Pierre Bemba. Non seulement le président du mouvement de libération du Congo est acquitté en 2018 des crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour lesquels il était poursuivi, mais l'ancien chef de guerre va jusqu'à réclamer plus de 68 millions d'euros d'indemnisation et dommages et intérêts à la CPI pour les années qu'il a dû passer en prison. Sa demande est rejetée en 2020 par la CPI qui l'a condamné en 2019 pour subornation de témoins. Mais l'un des plus grands fiascos de Fatou Bensouda demeure de ne pas avoir réussi à prouver la culpabilité de Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé. La CPI les avait inculpés de meurtre, viol, persécution et tentative de meurtre et autres actes inhumains. Le dossier, instruit à charge par Fatou Bensouda et son équipe, est présenté comme l'un des plus importants depuis la création de la Cour. Les deux prévenus ivoiriens acquittés, la procureure décide de faire appel. Ses détracteurs lui reprochent alors de faire le jeu des réseaux d'influence de l'actuel président Alassane Ouattara, soutenu par les Occidentaux. Mais maître André-Marie Kito Massimango souligne que la CPI dépend aussi du bon vouloir des États parties, ne serait-ce que parce que ce sont eux qui détiennent le cordon de la bourse.
Et je ne considère pas qu'il y ait eu d'échec dans la mission de la Cour, qui est une juridiction permanente. En particulier, les victimes des quatre coins du monde entier ont d'énormes attentes de la Cour pénale internationale au regard des systèmes de l'administration de justice qui est alarmante dans différents pays de la planète. Et le premier défi, c'est le défi important en ce qui concerne les moyens. J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs réunions de l'ensemble des États parties où la question des budgets de la Cour était toujours discutée. Mais bien, vous allez vous rendre compte que les moyens qu'on était en train d'allouer au travail de la Cour pénale internationale d'une manière globale, les moyens ne correspondaient pas aux attentes que l'humanité faisait de cette Cour.
Durant son mandat, Fatou Bensouda ne s'est pas fait que des amis, bien sûr. Dernière personnalité en date à avoir critiqué les enquêtes du bureau de la procureure, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, alors que Fatou Bensouda vient de déclarer son bureau compétent pour enquêter sur d'éventuels crimes de guerre commis par Tsahal, l'armée israélienne, dans les territoires palestiniens occupés.
Le procureur a mené une action sur un territoire qu'on croyait que les gens qui auraient commis des crimes là-bas sont des instoutables sur le plan mondial. Et vous avez vu quelles sont les conséquences de cette décision courageuse. Et vous avez suivi comment les États-Unis sont en train de s'acharner depuis l'année passée sur les autorités de la Cour pénale internationale et en particulier Madame la procureure de la Cour pénale internationale.
Une allusion à Donald Trump, qui n'avait pas non plus apprécié que la CPI se mêle des agissements de l'armée américaine en Afghanistan. L'ancien président américain avait placé Fatou Bensouda et ses collaborateurs sous sanction. Des enquêtes au Soudan, on en parlait tout à l'heure, en Centrafrique, au Mali, en Libye, en RDC, donc en Côte d'Ivoire, en Guinée. Il s'en trouve certains pour reprocher à Fatou Bensouda de s'être acharné sur l'Afrique, ce qui a même été l'un des arguments mis en avant par l'Afrique du Sud, le Burundi et même son pays d'origine, la Gambie, pour sortir du statut de Rome en 2016 et 2017.
Madame Bensouda est gambienne, mais Madame Fatou Bensouda, dès le moment où elle a été votée comme procureure de la Cour pénale internationale, elle ne travaillait plus pour l'Afrique. Elle n'était pas procureur d'une cour africaine. Mais plutôt, Madame Bensouda a été, et puis elle continue de l'être, puisqu'il n'y a pas encore son successeur, elle a encore la commande, elle est procureure d'une juridiction qui contrôle le monde entier.
C'est déjà la fin de ce magazine, il y aurait encore beaucoup à dire sur la CPI, nous aurons l'occasion d'y revenir. Merci de nous avoir suivis, merci aussi à Maître Pax André Marie Kito Massimango pour ses éclaircissements. Vous pouvez podcaster cette émission sur notre site dw.com/français. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.